Oui, et ça me permet de faire une transition aussi, tu vois, je suis très malin. On va rester dans les années 80. Avec toi, Raph.
Oh.
Même, on va même aller un petit peu plus loin, parce que Blondie n'a pas été qu'une star montante des années 80.
Oh non, non, non.
Alors, bah écoute, je te laisse commencer, hein. Vu que je n'ai pas de jingle pour la culture geek, ça viendra le mois prochain.
Ça viendra le mois prochain. Bah attends, oui. Je te le fais tout de suite.
C'est la crête, c'est la chronique de la culture geek.
Voilà. On en fera un mieux.
On la garde.
On en...
Ça va, il est très bien.
On en fera un mieux, mais si tu veux, on peut le garder. pour cette fois-ci, ça fera le taf.
Ça marche.
Allez.
Eh ben, mes chers camarades, pour cette petite rentrée, je trouvais intéressant l'idée justement de changer un peu le sujet de mes chroniques. Et du coup, aujourd'hui, il ne sera pas question de cinéma, du moins pas complètement, mais plutôt musique. Je vous invite donc à retracer avec moi un des groupes les plus cultes des années fin 70 et 80, j'ai nommé Blondie. Alors Blondie, tout le monde connaît Blondie, hein? Non, tu ne connais pas Blondie? Toujours pas. Mais tout le monde a déjà écouté du Blondie. Blondie, c'est quoi? C'est Call Me, voilà. C'est tout pour moi, merci. Non, plus sérieusement. Plus sérieusement. Blondie, c'est avant tout un groupe porté sur beaucoup de genres différents. La pop, le rock, le punk, le disco, il n'y a plus de musique.
Oui, il n'y a plus de musique.
Le reggae et même le rap. En somme, Blondie, c'est un des pionniers de la New Wave. Blondie, c'est 11 albums, c'est 40 millions d'exemplaires vendus à travers le monde. Et Blondie, c'est pas un nom. C'est 5 garçons et surtout une fille, Debbie Harry au chant. Née sous le nom de Angela Trimble, elle est adoptée en Floride à l'âge de 3 mois par Richard et Catherine Harry, qui sont juste deux petits commerçants, et devient Deborah Harry. Étant élevée selon les canons...
Les canons de Navarone.
Exactement. Élevée selon les canons de la classe moyenne américaine des années 50, Deborah devra suivre l'incarnation parfaite de la petite fille sage, soignée et normalisée. Et c'est lorsqu'elle déménagera à New York qu'elle pourra pleinement poursuivre sa quête d'identité, d'anticonformisme et de liberté. Qu'est-ce qui se passe du moment, chère Yann?
J'ai pas tous les extraits de la chronique, mais c'est pas grave.
Ah, t'inquiète.
Continue.
Le tout en étant ponctué par une attirance pour la musique et l'icône qu'est Marilyn Monroe. Faisant d'abord des petits boulots de serveuse, elle devient chanteuse dans des petits groupes mineurs, et sa vie, elle change lorsqu'elle fait la rencontre d'un certain Chris Stein, un guitariste lui aussi en quête d'une carrière musicale. Tous deux se mettent en couple et forment en 1974 le groupe Blondie, en référence au surnom que beaucoup donnaient à Debbie. Le groupe peine à démarrer à cause du côté glamour du groupe inspiré par Andy Warhol et avec à sa tête une femme fatale aux allures de Barbie Trash. Blondie va commencer à se faire remarquer en jouant au CBGB, le lieu cradingue et incontournable de la scène punk rock underground new-yorkaise. L'on y voit passer bon nombre de groupes tels que les Ramones, Television ou encore Patti Smith, ainsi qu'un certain Malcolm McLaren qui s'inspirera de la prestation du groupe les New York Dolls pour retourner en Angleterre et se consacrer à un petit groupe qui s'appelle les Sex Pistols. Mais bon, passons, revenons à Blondie. Le groupe n'est pas pris au sérieux. Trop glam pour le punk et trop punk pour le mainstream. Mais Deborah Harry intrigue et devient vite une icône à suivre. À la demande du groupe, les t-shirts sont créés où il y est écrit « Blondie is a group » afin de faire comprendre aux fans et aux médias que Debbie Harry n'est pas toute seule. Blondie, c'est vraiment un groupe. En 76, sort péniblement le premier album, qui sera un échec, mais ils se feront remarquer par David Bowie et Iggy Pop pour faire la première partie de ce dernier. Blondie réussit à avoir enfin en Australie son premier succès avec le single In The Flesh, mais c'est avec le troisième album que le groupe va connaître un nouveau tournant. Sorti en 1978, Parallel Line explose dans le monde entier, faisant 20 millions d'exemplaires à lui tout seul. Blondie est enfin reconnu aux États-Unis. C'est même devenu le premier groupe du CBGB à rencontrer un succès commercial. Sur cet album, on ne trouve que des pépites. Hanging on the Telephone, One Way on Another, Sunday Girl, Picture This, mais surtout, vous pouvez y trouver Heart of Glass. Immense tube qui confirme l'orientation du groupe vers la pop et le disco, dont les sonorités seront critiquées par le mouvement punk auquel faisait partie Blondie. Je vous invite vraiment à écouter l'album Parallel Line si c'est pas déjà fait. C'est un merveilleux album que je vous recommande chaudement. C'est de la crème chantilly auditive. C'est comme si un petit nounours venait faire un bisou à vos tympans. Et si vous avez reconnu qui a dit cette phrase, vous avez gagné toute mon estime. Après ça, le groupe enchaînera avec des expérimentations réussies dans le rap, ainsi qu'un autre succès disco, Atomic, que personnellement j'ai découvert dans le merveilleux film de Trainspotting de Danny Boyle. Mais le titre qui va révéler Blondie au monde entier, le titre qui fera que vous aurez oublié tous les autres, le chef-d'œuvre absolu de Blondie, c'est ça! Call Me, tube interplanétaire et indémodable, tout bonnement génial. Pour la petite histoire, le groupe est appelé par l'immense George Moroder, on en parlait d'ailleurs tout à l'heure, qui sort de la bande originale de Midnight Express d'Alan Parker, et qui va coécrire le morceau avec Debbie Harry. A la base, c'est une démo intitulée Man Machine, destinée à Stevie Nicks de Fleetwood Mac, et écoutez Fleetwood Mac, c'est vachement bien aussi. Call Me, ce sera alors chanté par Blondie et utilisé pour le film American Gigolo, réalisé par Paul Schrader, à qui l'on doit La Féline ou encore les scénarios de Taxi Driver, Raging Bull ou encore Rencontre du Troisième Type. Le film est un joli succès, engrangeant 52 millions de dollars pour un budget de 5 millions, mais surtout, il est nominé aux Golden Globes pour la meilleure chanson originale pour Call Me. Cette chanson est tellement inscrite dans la culture populaire que vous pouvez la retrouver dans bon nombre d'œuvres, Code Quantum, Zoolander, Nocturama, Le Troisième Conjuring ou encore La Fiancée de Chucky, pour ne citer que. Petite info, c'est mon préféré de la saga Chucky. Mais à ce moment précis, justement, le groupe est au sommet de sa gloire. Inutile de vous cacher que maintenant, il ne peut que chuter. Debbie Harry décide alors de faire un album solo avec Neil Rogers et Bernard Edwards du groupe Chic et la pochette de cet album, ainsi que le clip du single Backfired, sont signés H.R. Giger, le papa de Alien. L'album est un échec. Debbie revient avec Blondie faire l'album The Hunter, sorti en 82. L'ambiance dans le groupe est électrique, la complicité inexistante, bref, tension, drogue, tournée désastreuse, soucis d'argent. Et pour terminer, Chris Stein qui a de très très graves ennuis de santé. Blondie se sépare. Et Debbie stoppe sa carrière et devient discrète pour être à côté de Chris. Mais depuis 1997, le groupe s'est reformé et continue encore aujourd'hui à faire des albums et des tournées, ainsi qu'à faire vivre les plus grands classiques qui ont marqué nos vies. Blondie a laissé une empreinte immense sur le monde, la musique et la culture. Et Deborah Harry est devenue parmi les artistes féminines les plus importantes et les plus influentes qui soient, inspirant de très nombreuses femmes, dont, par exemple, Madonna. Blondie possède également un rapport très intime avec le cinéma. J'ai pu citer tout à l'heure les nombreuses utilisations de Call Me, mais beaucoup d'autres chansons ont été utilisées, dont Heart of Glass ou Atomic, tandis que Debbie Harry a eu une certaine carrière en tant qu'actrice. Elle est un des personnages principaux de Videodrome, de David Cronenberg, elle a joué dans Hairspray, de John Waters, Copland, de James Mangold, ou encore dans un des trois segments du téléfilm Body Bags réalisé par John Carpenter. De plus, Debbie Harry avait été approchée pour signer la bande originale du nouveau James Bond, Rien que pour vos yeux. Refusant la version des producteurs, elle et le groupe créent leur propre version, qui au final n'a pas été retenue, et figura sur le dernier album du groupe, du moins à l'époque. Donc voilà, Blondie c'était tout ça, et plus encore. Un savoureux mélange des genres, qui n'a cessé d'évoluer avec le temps et qui l'a surtout transcendé. Un groupe magistral et important pour les générations qui vont suivre. Une chanteuse iconique dont tous les garçons étaient amoureux et toutes les filles en admiration. Un mastodonte du quatrième art qui a dépeint sur tous les autres. Un groupe intemporel, tout simplement. C'était donc ma petite chronique culture. Et qui dit culture, je me devais de parler de musique. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous.
Je me coucherai moins bête.
Merci Raph.
Et ravi d'avoir ton estime. Du coup.
Ça fait du bien d'entendre du Blondie, ça fait pas, c'est ouais, pas tous les jours. Mmh. Même si aujourd'hui c'est très galvaudé et qu'on est un peu oublié, ça reste un pont merveilleux de la culture et de la musique des années 70-80.
Oh oui.
Je suis toujours aussi fan personnellement. Et je vous invite à écouter ce qu'elle a fait pour James Bond, enfin ce qu'elle a essayé de faire pour James Bond. Ça reste quand même encore meilleur que la version originale qui a été choisie pour le film au final.
Même moi je ne la connaissais pas cette version, donc il va falloir que je m'y mette.
Bah, elle est sur YouTube, je t'invite à l'écouter.
Yep.